Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en septembre 2013 et c'est le numéro 28. Bonjour à tous, ce mois-ci nous ne sommes que trois, mais non des moindres, puisque je suis en compagnie de Callisto.
Oui.
Et de Yannick.
Bonjour à tous.
Au sommaire de cette émission, nous aurons Panty Explosion Perfect par Callisto, Ryutama par ma pomme, puis Moonblade par Yannick, ouais. Et Era Epic Storytelling à nouveau par Callisto.
Ouais, histoire de finir avec un truc qui m'a bien plu. Et qui fait un peu news et tout, parce que c'est sorti le 6 septembre.
D'accord. Eh ben, je te propose de commencer tout de suite par le jeu au nom particulièrement évocateur de Panty Explosion Perfect.
Alors, on distribue un petit peu de documentation à mes camarades de jeu.
Oh.
J'ai de belles fiches de personnages sous les yeux, tout en couleur.
Alors, Panty Explosion Perfect, c'est un jeu de rôle à narration partagée, on va dire. Il est sorti chez Atarashi Games, il est écrit par Jack Krishman et Matt Schlott. Je vous laisse rigoler, ça, oui, ça fait que le schlott, échalot, tout ça. Bon, oh, c'est un petit livret souple d'une cinquantaine de pages couleur, abondamment illustré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas 50 pages. Hein. Et c'est dans un style manga, bon, toutes les illustrations. Et il existait une première version du jeu, Panty Explosion tout court, qui avait même été traduite en français par Max Ravage, donc Laurent Rambourg, dans une version qui était augmentée. Hein. C'était passé de 96 pages en VO à 246 en français. Donc Panty, c'est quoi? C'est une culotte, du genre de celle qu'on voit apparaître dans de nombreux mangas, d'où le nom du jeu. Parce que dans Panty Explosion, on joue justement des écolières japonaises, toutes dotées de pouvoirs psychiques qui viennent compliquer leur vie déjà mouvementée d'adolescente.
C'est du Sailor Moon un peu?
Tu peux tout à fait, ouais. Pouvoir par pouvoir psychique, en fait, c'est une palette extrêmement vaste. Ça peut être aussi bien être, en fait, je suis une cyborg, en fait, je suis une Sailor Moon, une Magical Girl, où j'ai des pouvoirs psy, etc. Le style est faire exploser la tête des gens.
Ah, c'est bien, je vais prendre ce pouvoir-là.
En fait, c'est les deux pouvoirs de base. On dit de base, par défaut, tu l'évites et tu fais exploser la tête des gens.
D'accord, ça a l'air bien.
Comme ça, c'est. bon, histoire de compliquer un peu plus leur vie, en fait, ces braves étudiantes sont dans un lycée, en fait, qui est un peu un nexus de tous les phénomènes paranormaux existants, hein, ninja, fantôme, yokai extraterrestre, Men in Black, etc. Bon, avant de se faire une petite idée réductrice du jeu, parce que bon, avec les culottes, les étudiantes japonaises, forcément, ça, on se dit, mais on va jouer quoi, hein. On va voir comment on crée sa lycéenne. C'est important, on joue que des filles. Que ce soit normal, alien, robot, des filles chats, des mecs déguisés en filles, etc. Peu importe, du moment que c'est assimilé à une fille.
D'accord.
Alors, tout d'abord, elle a deux détails. C'est des espèces d'aspects qui pourront être utilisés une fois chacun pour l'aider dans ses jets. Genre, j'ai toujours ma guitare avec moi, ma tête est détachable et possédée par une entité démoniaque, ou je suis la plus forte en maths. Donc des applications un peu différentes. Hein. Y a des listes de suggestions. Hein. Et surtout,
j'ai peut-être mal compris, tu as dit ma tête est détachable.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Et possédée par une entité démoniaque, ce qui peut compliquer, hein, par exemple, faire des tâches. Mais qui peut être utile pour d'autres.
Pour chez le coiffeur, c'est relou un peu.
Laissez
votre tête sur place.
Elles ont aussi un objectif, en fait, qu'il faut s'efforcer de réaliser durant la séance de jeu, qui est assez courte, comme on va le voir. Et cet objectif, en fait, il est profondément lié à d'autres mécaniques du jeu. Attention, là, on s'accroche. Si vous avez atteint votre objectif, c'est le joueur du personnage que vous aurez défini comme étant votre meilleur ami qui validera votre réussite.
Ça veut dire quoi, valider la réussite?
Dire, ouais, c'est bon, t'as vraiment réussi à séduire machin truc muche, à réussir ton contrôle de maths, etc. C'est lui qui va valider que l'action, ouais, c'est bon, t'as bien accompli ton objectif.
D'accord.
C'est pas toi, c'est pas l'OMJ, etc. Parallèlement, en fait, ce meilleur ami, on a dit, hein, c'est de la narration partagée. Ce meilleur ami, c'est aussi celui qui décrira les réussites de tous tes tests. Donc dès que tu réussis un jet, c'est pas l'OMJ qui raconte là, hein, c'est ton meilleur ami.
Est-ce qu'il peut décider de ne pas valider
Ouais, complètement, ouais.
C'est la trahison,
ouais,
alors.
Alors, est-ce que c'est ton meilleur ami parce que toi tu l'as décidé,
ouais.
Enfin, tu l'as désigné comme tel.
C'est un des personnages qui est désigné comme.
Mais ouais. C'est pas forcément le cas.
C'est censé être le meilleur ami de ton personnage. Hein.
Mais que toi
voilà.
Tu crois, mais elle, c'est une pute.
Oui,
ça,
voilà.
Ça.
De la même manière, en fait, chaque personnage aura un rival. Ce rival, il essaiera de t'empêcher en fait, d'atteindre ton objectif. Donc, par exemple, en te bousculant au réfectoire quand tu vas essayer d'obtenir un rencard avec le Bukuro. Et là, plaf, fais te foutre ton plateau dans la gueule, t'es toute dégueulasse et tu vas te cacher.
Le Bukuro en un mot ou c'est...
Le beau
le Kuro. Kuro.
C'est le nom
pas,
du
pas
jeu.
Jeu de rôle. C'est, pas, c'est, pas un, c'est un nom à la base.
Ah d'accord, ok, très bien.
Mais on peut l'appeler autrement, mais si je l'appelle Robert, ça fait moins, tu vois, Jean, ça fait moins japonais, quoi. Jean-Claude. Ah, voilà. Johnny, Kevin.
Ça dépend, c'est pour l'exportation.
Et ce rival, c'est celui qui décrira les conséquences de tous tes jets défoirés. Donc une fois qu'on a atteint un objectif aussi, on peut changer un détail existant. Alors en gros, bah, j'étais très doué en guitare, ce qui m'a permis de séduire le Bokuro. Mmh. Et du coup, je le transforme. En fait, maintenant, je sors avec le gars le plus hype de l'école. Donc nouveau détail, donc nouvelle utilisation possible dans le jeu. Et aussi, tant que l'objectif n'est pas atteint, le démon est plus puissant.
C'est quoi le démon ? Oh,
c'est beau, j'avais écrit ça. Tu vois. J'avais écrit que quelqu'un prenait la question. Le démon, en fait, ça représente l'opposition générale que les étudiants devront rencontrer. Donc il est principalement créé et géré par le superintendant, qui est un peu le MJ du jeu. C'est un MJ animateur, hein. C'est pas du MJ, puisqu'on a dit, il raconte ni les réussites, ni les succès. Bon, il définit vaguement une trame d'histoire, quoi. On peut s'en passer, on peut le faire tourner. Faites tourner le superintendant.
Faites tourner.
Et il peut même jouer une étudiante. Hein. La partie qu'on a fait hier, je joue une étudiante aussi, histoire de ne pas rester dans mon coin. Et donc notre démon, en fait, ça peut être vraiment des choses très diverses. Ça peut être des extraterrestres venus faire des prélèvements, ça peut être un fantôme japonais qui hante les toilettes. Ou ça peut simplement être aussi le ministère de l'éducation japonais qui veut renforcer la difficulté des examens. Bref, c'est l'opposition, quoi. C'est une opposition générique, entre guillemets, quoi. Et en fait, en croisant cette notion de démon donc, avec les objectifs de chacun des joueurs, parce que donc, chacun, par exemple, découvrir pourquoi la prof de bio donne des cours le soir auxquels je ne suis pas admis. Si on croise ça avec des extraterrestres qui viennent faire des prélèvements dans le lycée, bon bah voilà, on a déjà des pistes de qu'est-ce qu'on peut faire comme scène, comment est-ce que les objectifs et le démon vont se croiser, et on va donc obtenir des scènes un peu comme ça, quoi. On obtient la trame de l'histoire. Chaque joueur en fait aura deux scènes à jouer, ça fait pas beaucoup. Bien sûr, on peut avoir les autres joueurs qui vont être inclus dedans, les autres personnages, hein. Et on joue chacun son tour jusqu'à ce qu'une scène ait une conclusion logique. Donc quand c'est son tour de jouer, en fait, le joueur narre ce qu'il essaie de faire, soit pour atteindre son objectif, comprendre par exemple pourquoi je peux pas aller dans le cours de biologie et compagnie, soit pour chercher du côté du démon. Il faut déjà avoir une petite idée que le démon existe. À un moment donné, il rencontre une opposition, un conflit, soit via son rival, qui est chargé de l'empêcher d'atteindre son objectif. Donc ce rival peut par exemple intervenir directement dans la scène pour foutre la merde. Genre j'essaie de gruger pendant mon contrôle de maths, et ma rivale qui est à côté de moi va essayer d'attirer l'attention de la prof sur moi, genre « Maîtresse, maîtresse !» Voilà. Donc ça provoquera un conflit. Ou
maîtresse, elle a des ballerines. Bon, ouais.
Ou cool. Alors, j'ai pas compris.
C'est pas grave.
Elle a des quoi ? Et l'autre type d'opposition, en fait, qu'on va pouvoir avoir, c'est d'utiliser le démon. Donc le ministère japonais, les extraterrestres et compagnie. Donc de base, sinon tout réussit à peu près. On peut pas trop vraiment véritablement échouer, quoi. Donc soit tu interviens directement en tant que rival pour bloquer ton opposé, ton opposante, soit tu fais appel au démon. Tous les joueurs peuvent faire appel au démon, quoi. Donc d'où l'intérêt de convenir de quel est le démon. C'est pas un secret, on en discute en début de partie, comme on va évoquer qu'est-ce qu'on veut comme type de thème. Est-ce qu'on veut parler de l'horreur, est-ce qu'on veut faire du drama, est-ce qu'on veut faire du comique avec des situations où on veut des culottes tout le temps, ce qui est pas une obligation du tout, hein. C'est énormément différents styles de jeu qui sont possibles. Donc à un moment donné, on aura donc une opposition. À ce moment-là, on devra résoudre le conflit à l'aide d'un simple dé de 6. Il suffira d'obtenir un score supérieur à 3, 4 ou 5 selon la popularité du personnage. Ah ouais, à la fin de... Quand on a fini de créer les persos, on se raconte nos objectifs et nos détails, et on élit, en fait, quel personnage est le plus populaire. Quelle est la fille la plus populaire de la classe, en fait.
D'accord.
Et elle aura plus de chances de réussir ses jets de dés. Par opposition, la fille la moins populaire, elle...
Le boulet de la classe. Ouais, ouais.
C'est dégueulasse.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, à chaque fin de scène, tu peux refaire un vote pour te faire réélire. Donc t'as fait un truc sympa dans la scène, faut pas hésiter à dire bon allez on revote, etc. et à faire tourner entre guillemets le petit bonus de popularité, quoi.
D'accord.
Bon, quand on a un détail qui est approprié, genre j'ai toujours ma guitare sur moi, ça tombe bien, j'ai un truc où ça peut servir, bah je gagne un petit plus 1 à mon jet de dés, donc ça facilite la réussite, quoi. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, si je réussis mon jet, ma meilleure amie raconte ce qui se passe, hein, et si je rate, c'est ma rivale qui raconte tout. Le démon, faut le vaincre. Pour arriver à finir l'histoire, il faut arriver à le vaincre 3 fois, à 3 occasions différentes pour qu'on en soit débarrassé. Plus il est blessé, moins il est efficace, donc moins il mange de gens par exemple, ou moins il fait rater les examens d'entrée en je sais quelle classe supérieure. Mais il est aussi plus fort s'il affronte des étudiantes qui ne sont pas sûres d'elles, c'est-à-dire des étudiantes qui n'ont pas accompli leur objectif. D'où l'intérêt d'essayer quand même d'accomplir l'objectif.
D'accord. Et ça fait quoi s'il est plus fort en fait ?
Bon, il a plus de chances de réussir. Ça, c'est un des petits défauts du jeu, justement.
Ah, d'accord.
Je vais l'évoquer un peu plus loin. C'est un petit point sur lequel on a buté. Enfin, j'ai buté, en tout cas, moi. On a parlé de pouvoirs psychiques. Je ne les ai pas évoqués avant, parce que maintenant vous avez compris un peu le système de résolution. Il suffit de vous dire que les pouvoirs psychiques, quand on décide de les utiliser, en fait, on réussit automatiquement le jet de dé. Donc, réussite automatique de test. C'est génial, en apparence.
Mais si le pouvoir correspond à l'action entreprise ou tout le
temps ? Non, parce qu'en fait, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec les pouvoirs psychiques.
Ah, tu définis pas ton pouvoir au moment de créer ton personnage ?
Tu peux le faire au moment, tu peux faire aussi la révélation, genre finalement, en plein milieu de la scène, je suis une magical girl, ou alors je suis un robot cyborg avec des lance-flammes intégrés. Ce qui du coup compliquera ta vie adolescente après.
Ouais.
Parce qu'à partir du moment.
Avec des lance-missiles dans les fesses.
À partir de. Tout à fait. Bah, genre, je les aurais vus plutôt à l'avant, les obus, mais c'est toi qui vois où tu les mets. Donc l'action étant réussie, mais la petite blague, c'est que c'est pas le meilleur ami qui va raconter l'action, c'est la rivale.
D'accord.
Qui va raconter comment tu réussis. Elle ne peut pas te nier la réussite, mais elle a le droit de rajouter tout ce qu'elle veut en effet secondaire, en truc imprévu.
Genre tes obus touchent quelqu'un d'autre, tu détruis la salle de cours.
Complètement, voilà. Ou ça, en te transformant en super truc, l'énergie crépite te déchire tes vêtements et tu tombes nu devant le Bokuro. Qui du coup, tu timide comme tu es, tu te sens ridicule et tu fuis lâchement pour te D'accord. cacher dans les vestiaires.
Avec
etc.
une grosse goutte bleue sur la joue.
Par exemple, voilà. Et à partir du moment où on a utilisé ses pouvoirs psychiques, à chaque fois qu'il y aura une réussite ou un échec, une narration de résultats, ce sera agrémenté de petits détails rappelant que tu n'es pas normal, tu n'es pas humaine. Et parallèlement, tu ne peux plus non plus être élue la fille la plus populaire.
D'accord.
Voilà, donc ce qui te pousse de plus en plus à avoir recours aux pouvoirs psychiques, etc. pour réussir tes actions. Voilà un petit peu. Alors. Bon, si on n'a pas du tout envie de jouer des étudiantes japonaises ou si il y a d'autres, l'auteur a prévu ce coup-là, en fait, il y a plusieurs manières de jouer, hein, comme je disais, du comique, du drama, de l'horreur, hein, mais il y a aussi, l'auteur a donc créé des petites modifications extrêmement simples du jeu pour jouer du Harry Potter, des mutants de l'Académie Xavier, de jeunes Jedi, des ninjas à la Naruto, ou même d'espèces marines à la période de l'Eresidorus, où en fait, ouais. les pouvoirs psychiques, ça devient les mutations du chaos.
Voilà. Ah,
et ouais, tu comprends pourquoi le stigmate social est mauvais, quoi. Ça va bien, ouais, depuis que j'ai 4 bras. Voilà. Et si le nom vous fait peur aussi, il y a une petite news du 25 septembre. Attention, hein, le jeu va être réédité avec un nouveau nom. Et les intéressés ont jusqu'au 8 octobre pour proposer des noms plus vendeurs. Parce que souvent, en fait, on a dit à l'auteur ouais, mais avec le nom de ton jeu, je peux pas y jouer, je peux pas le proposer des joueurs, des explosions.
Je peux pas le lire dans le métro.
Ouais.
Ça se voit encore, mais c'est vrai que Panty Explosion, moi j'avais. Enfin. J'avais entendu parler de la première version et je pouvais pas imaginer ce que c'était et à quel point ça pouvait ne enfin toi je pense pas que du tout intéressé quoi
ouais, je pense que c'était très streamliné et du coup bah c'est pour ça aussi qu'il fournit clairement des idées d'adaptation à d'autres systèmes et où ça doit coller bien
hein. Mais, pas de... et là, j'ai une question bête, pourquoi Perfect?
Parce que, bah, dans le sens deuxième édition, je pense que c'est parce que c'est une version épurée, entre guillemets, de la première. Mais j'ai pas lu la première. Les concepts étaient à peu près similaires. A priori, le système de technique, de conflit, d'opposition, c'était
système,
plus
il me semble que t'avais un vrai système de jeu.
Ouais, c'était plus lourd.
Ouais.
Et là, je pense qu'il s'est concentré sur l'essentiel ou c'est
non,
pareil.
C'est quoi c'est pas un vrai système de jeu, c'est ça que tu es en train de me dire.
Bah oui, ouais.
Oui, t'as un système de résolution. Il faut faire plus que tant sur un D6. Voilà. Bon, le jeu, il est pas parfait. Il y a des coquilles, il y a des explications qui semblent contredites peu de temps après. Il y a des. Même dans les jolies bandes dessinées qu'on a, il y a des exemples qui sont faux, enfin au moins un ou deux. Voilà. Et comme tous les jeux à narration partagée, il faut tester, puis c'est une fois qu'on est confronté à des ambiguïtés, qu'on revient sur des points précis, des formulations. C'est un peu comme du Magic en fait, hein, pour moi, souvent les jeux narrativistes. Vous avez la tournure de phrase en fait, t'indique qui doit parler, quand et dans quelle limite. Et c'est souvent assez pointu quoi. Donc t'as dit il y a 50 pages, ouais, mais il faut le relire 10 fois donc.
Il y avait une carte magique, excuse-moi.
Ouais, une petite aparté.
Il y avait une carte magique au tout début sur ce problème-là de gens qui ont du mal avec les tournures de phrases. Et la carte disait le joueur adverse perd le prochain tour. Donc tout le monde comprend, il saute le prochain tour. Et il y avait pendant longtemps, avant que ce soit validé par une fac, les gens pensaient que le joueur il perdait la partie. Le prochain tour. Donc il n'y avait plus qu'un tour pour gagner. Donc sur les tournures de phrases, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ça paraît naturel, enfin, on va dire que t'as une explication qui te paraît naturelle, et puis en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément la même pour la tête de
tout
n'importe
à fait.
Qui.
Voilà.
D'accord.
Tout à fait. Et puis, comme je dis souvent, ces bouquins-là sont extrêmement petits, donc le choix des mots est vraiment
ouais,
important.
Quoi, mais surtout dans un jeu narrativiste où effectivement, t'es pas là à calculer un point, moins un, plus un, etc.
Non, non, on est vraiment pas dans les mathématiques, on est vraiment dans comment je gère des scènes, etc. Alors, justement, bah, là, on a fait une petite partie test hier soir, là, on a rencontré un peu deux problèmes. Comment tuer le démon et quelle vitesse pour le. Et à quelle vitesse? Donc le démon en fait il peut agir par lui-même. qu'a priori c'est manger des gens, etc. Il peut aussi être un obstacle sur le chemin des PJ. Genre manger les PJ.
D'accord.
T'as vu la différence subtile entre manger des gens qui sont manger des PNJ et manger des PJ? Et bah a priori en fait, mécaniquement, c'est pas résolu de même manière. Et du coup, ça contribue pas nécessairement à venir à bout du démon. C'est-à-dire que si le démon est un obstacle sur le chemin de ce que mon PJ essaie de faire et que je gagne, je blesse le démon. Si je l'empêche de manger l'équipe de natation, enfin, si il fait un jet de dé, s'il essaye de lui-même de manger l'équipe de natation et qu'il réussit ou qu'il réussisse ou qu'il rate, ça change rien pour lui. C'est pas un échec s'il échoue.
C'est okay. Chiant pour, plus pour l'équipe de natation. Mais...
Ouais, ouais, oui, c'est, voilà. C'est ça. Bah, hier, c'était le directeur de l'école, mais c'est pareil. Il s'est fait bouffer, mais on s'en foutait en fait. Ouais. Ça changeait rien. C'était juste de la déco, quoi. Du coup, si les joueurs s'unissent tous, ils viennent assez facilement au bout du monstre en une scène, a priori, puisque du coup, tout le monde est en opposition avec lui et chaque opposition réussie lui fait un point de dégâts, quoi. Donc,
il
au bout de 3, il disparaît. Enfin, il disparaît assez facilement au début de partie. C'est-à-dire, il en retraite facilement, mais en fait, quand t'as passé la moitié du jeu, Tu peux y aller tous, quoi. Tout le monde sort son fusil, son machin, ses pouvoirs psy, et hop, c'est bon, on va péter les démons.
Surtout que c'est des réussites automatiques avec les pouvoirs psy.
Et voilà, justement, et là, encore un petit point d'embrouille à ce sujet-là. En fait, qu'est-ce qui se passe si je lutte contre le démon avec mes pouvoirs psychiques? Parce que c'est la rivale qui raconte ce que les pouvoirs font, et c'est le meilleur ami qui dit comment le monstre meurt.
D'accord.
Donc en fait, c'était un peu ça, c'est du style. Tu décris ce qui se passe pendant que tu lances ton pouvoir psychique, machin, et. Une espèce de chant de sirène, je sais plus quoi. Et du coup, on a conclu que, et ton meilleur ami, il raconte juste comment le monstre meurt dans les flammes, brûlé. Ouais. Bon, c'était un peu. Bon, tout ça, c'est rien d'insurmontable, comme dit, mais je pense que chaque groupe fait sa soupe. Là où pour moi tout devrait être bien codifié, etc., quoi, par rapport à d'autres jeux de ce type-là que j'ai lu où tout était quand même assez un peu plus carré.
C'est
quoi.
Pas très bien formaté.
C'est des petits points, comme je dis, ça ne survient que dans le jeu.
Oui.
Si c'est comme ça que tu le constates, il n'y a qu'en essayant, d'où l'intérêt de. Ça confirmait un peu des craintes que j'avais à la simple lecture de 2-3 points de flou. Quoi.
Ok.
J'ai une question.
Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais pour donner envie de jouer en fait? C'est-à-dire que qu'est-ce qui, toi, te semble vraiment sympa avec ce jeu-là que tu peux pas franchement retrouver avec d'autres jeux, par exemple? Ça peut être le système de jeu qui t'a plu, ça peut être...
En termes de... Si on voulait faire de l'initiation, du machin, quelque chose comme ça, je trouve que ce sera un très bon angle d'approche, justement, parce qu'on peut toucher, avec tous ce que j'ai cité, entre les X-Men, le Naruto, le Harry Potter, l'écolière japonaise version shoujo, etc.
Typiquement, tu peux dire aux joueurs, vous voulez jouer à quoi.
Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Tu prépares tes petites fiches avec tes bonhommes tout faits, t'as déjà ton idée de démon, approximativement. Tu te poses toi bien en MJ.
Tu peux même poser la question aux joueurs, qu'est-ce que vous voulez comme démon?
De base, ça se pose.
De base, c'est ça, oui, d'accord.
C'est vraiment, tout le monde sait, en fait, avant la partie, on se met d'accord sur quel type de démon. Celle-là, ça peut un peu être long, genre au bout d'une demi-heure, on se décide un peu sur qu'est-ce qu'on prend comme démon, histoire de réfléchir à nos objectifs.
C'est là que tu agis comme guide en tant qu'MJ.
Voilà, si tu fais en tant qu'MJ animateur, c'est là où tu. Et donc, autour d'une table, en animation, en convention, en truc comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Parce que ça, du coup, ça fait des parties quand même courtes aussi.
Ouais.
2 scènes par personne. Donc.
Vous avez combien de temps a duré votre partie hier?
2h30 je pense.
2h30?
Ouais.
Vous étiez combien?
4.
D'accord, tu peux pas jouer à moins de 3 de toute façon.
Non.
Puisqu'il faut un meilleur ami.
Oui, alors là, ce sujet-là, c'est encore un des autres mini-bugs. En fait, dans la version simplifiée, on te dit ton meilleur ami prend celui qui est à ta gauche et ton rival prend celui qui est à ta droite. Et en fait, généralement, tu te retrouves avec même. En fait, mon meilleur ami est aussi mon rival. Enfin, celui que je crois que je suis le meilleur ami de mon rival.
C'est ce que je te disais tout à l'heure.
Ouais. Ça c'est et c'est pas que à 3. Il donc ça aussi il faut contrer ce truc là, faut quand même faire un petit peu à sa sauce quoi.
Mais en fait, il est complètement buggé.
Non,
j'ai pas l'impression.
Non, il est pas complètement buggé. Je pense qu'il y a vraiment un ou deux points vraiment d'interprétation, comme je disais, avec le coup du bien comprendre que le démon mange les PJ, c'est pas la même chose que le démon mange les PNJ.
Oui.
Mais c'est subtil, hein, mais dans le jeu, on a eu une hésitation. Maintenant, je sais comment le jeu le jouerait, par exemple, après avoir été confronté au problème.
D'accord.
Mais dis, ça doit être ça qu'il veut dire quand tu te retrouves face à la difficulté dans le jeu. Quoi. Donc, non, pas complètement buggé, facile à comprendre, accessible à tous. Maintenant, faut des gens qui ont un peu d'idées et qui commencent à se décider à marquer le truc. À partir du moment où t'en as un ou deux qui commencent à marquer leur objectif, leur détail sur la fiche, pof, c'est bon, c'est parti. Mais t'as toujours le petit point de démarrage, entre guillemets, qui est pas toujours facile.
Oui, en même temps, pour un jeu à narration partagée, c'est vrai que les joueurs sont quand même censés être plutôt proactifs.
Voilà.
Ok.
Donc, si tu fais l'initiation avec ça, t'encadres juste un petit peu plus. Et puis, je pense que ça roule, quoi. Voilà.
D'accord, merci. Alors, à propos d'initiation, je vais vous parler maintenant de Ryutama.
Ryutama.
Qui est la traduction d'un jeu japonais de Atsuhiro Okada. Donc, c'est paru chez le nouvel éditeur Le Lapin Marteau, qui est donc la maison d'édition de Jérôme Marais. Alors, ce jeu est en format A5, il a 202 pages. C'est un jeu qui est découpé en deux parties. Il y a une partie qui est le jeu de rôle en tant que tel, et une partie où il y a les notes de conception de l'auteur, et puis une fac, plus divers autres bricoles. Et cette partie note de conception, c'est l'une des spécificités de cette version française. Il n'y a pas ça dans l'original. D'ailleurs, la traduction en question a été faite à partir de la deuxième édition japonaise. Voilà. Donc il y a déjà eu des errata et autres qui ont été intégrés dans cette édition. Mm-hmm. Alors les illustrations sont magnifiques. Celle de la couverture plus les dragons qui sont à l'intérieur.
On a flûté un petit peu, c'est très beau.
Quand le feuillette, on voit que la mise en page est très aérée, avec beaucoup d'encadrés. Je crois qu'il n'y a aucun texte qui dépasse les trois paragraphes de cinq lignes.
Aucun gros bloc de lecture.
Voilà, exactement. Il y a plein de petites icônes qui servent à identifier des briques du système, par exemple que ce soit les attributs du personnage ou ses états ou des trucs comme ça, par exemple quand il est empoisonné, malade, etc. Il y a des petites icônes toutes marrantes.
Avec un bonhomme qui vomit.
Non. Voilà. On ne doit pas être loin d'un truc un peu comme ça. Donc plus globalement, et j'y reviendrai sûrement, ça ressemble, en fait, moi ça m'a fait penser à un manuel de jeu vidéo, type Final Fantasy, mais dans sa structure. C'est-à-dire, c'est hyper lisible, didactique, avec plein de lorsque le système est abordé, par exemple, il y a des encadrés avec des flèches qui disent s'il y a un succès, s'il y a un échec, s'il y a un succès critique, s'il y a un échec critique, etc. Donc c'est le côté japonais de la chose, on va dire. Parce que Jérôme m'a montré quelques autres, on était par Hangout, et donc il m'a montré d'autres jeux japonais, ouais. Et ils ont aussi beaucoup ce parti pris. Alors curieusement, quand on voit la feuille de perso, elle a l'air super massive, dans le sens où elle est un peu comme une feuille de ADD, quoi, avec plein de cases partout, mais c'est que celle-ci est la plus complète possible, de façon à gérer tous les cas spéciaux et les bonus et les machins. Voilà. Alors, oui.
Non, vas-y, ça parle, okay. De quoi, en fait.
Alors, au niveau du contenu, donc le bouquin commence par une présentation de Ryutama et de l'objectif du jeu, c'est-à-dire de jouer des voyageurs qui font des voyages, donc. Dans un monde doux et pastel, c'est où les gens sont plutôt gentils, où le plaisir est plus dans la traversée des divers paysages, finalement, que dans le...
Alors, les voyages forment la jeunesse. Ouais. Les classes de personnages, c'est marchand, guérisseur, ménestrel, fermier...
Et là, Yannick, qui ne dit rien, mais qui me fait un signe manuel de masturbation.
pas du tout.
Mais écoute, moi je trouve bien qu'au moins le jeu présente son objectif et sa note d'intention. Après,
non, mais je comprends bien, mais voilà. C'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu ?
Bah, on est des voyageurs.
D'accord, c'est Rêve de Dragon ou à la
japonaise ? Ah, ben ouais, un peu.
D'accord.
Ouais, voilà. T'es pas très loin du truc. Il y a tout d'abord après cette présentation, il y a une page sur ce qu'est le jeu de rôle. Une page sur justement ce que font les PJ, ce qu'ils incarnent, quel est le rôle, quel est le genre de choses qu'ils vont avoir à faire.
Voyager.
Toutes les actions, que ce soit de vaincre des monstres errants, ou alors de faire un campement, ou de faire des choses comme ça, bref.
Oui, chaque fois, je vois, chaque classe a des trucs, l'artisan fait de la réparation, de la création, il transforme les choses.
Attends, j'en suis pas encore là. Donc il y a la page de présentation des PJ, la page de présentation des MJ et des personnages des MJ qui sont appelés les hommes dragons, qui sont en fait des espèces de d'esprit. Enfin, c'est présenté un peu comme des dieux par rapport à l'univers. Alors l'univers, je vous le décris rapidement. Il est résumé par un petit poème au tout début du bouquin. Il y a quatre dragons qui sont les dragons des saisons, qui ont donné naissance à d'autres dragons qui sont les dragons des paysages et les dragons des climats, lesquels constituent des décors d'aventure. Et les hommes dragons sont en fait chargés de nourrir les dragons des saisons avec le récit des voyages faits par les voyageurs. Voilà.
Très rêve de dragon, on peut encore.
Voilà, ah, ouais, sérieux, tout à fait. Ouais, mais c'en est très très proche. D'ailleurs, il y a l'une des phrases au début, là où il y a l'espèce de poème, c'est écrit « Le monde est un œuf de dragon ».
C'est une référence de Jérôme ou c'est...
Non, je pense que c'est l'auteur d'origine. Et c'est très marrant comme... cette convergence, en fait, entre le jeu de Denis Gerfaut et celui-ci.
C'est pas un mal, hein, si je peux me permettre. Enfin,
Ah oui, mais c'est
un excellent jeu.
Ouais, moi j'aime bien, ouais, bien sûr. Donc ces hommes dragons, en fait, ce qui est bien, c'est que le jeu tel qu'il est présenté aussi dans vos propos par l'auteur, c'est de permettre l'initiation, et non seulement l'initiation du joueur, mais surtout l'initiation du MJ. Et donc le MJ a un personnage à lui, ce qui est l'homme dragon. Et cet homme dragon, en fait, il apparaît en fait en quelque sorte en arrière-plan, un peu comme un dieu bénéfique, mais qui les surveille de loin, en haut du pic d'une montagne ou en haut d'un arbre ou quelque chose comme ça. Il les voit de loin et il peut se manifester grâce à des pouvoirs que ce personnage a, qui sont des pouvoirs de méta-jeu.
D'accord.
Et il a trois trucs, je me souviens plus de comment ça s'appelle. Il a les artefacts notamment, dont certains qui permettent de donner plus de points de vie au PJ. Mmh.
Mais c'est quoi ça, c'est un espèce de mentor.
Il les accompagne en voyage. Comment ça se passe?
C'est lui qui file les missions.
Non, pas du tout. Il est extérieur. D'accord. À la partie, mais il les aide et il les suit.
D'accord.
Puisque il est chargé de récupérer l'histoire qu'ils vont faire par la suite, donc il doit les regarder tout le temps, mais il ne doit pas intervenir physiquement.
Et eux le voient ou...
Non, eux ne le voient pas, et oui. Il peut envoyer des, il peut se présenter sous une autre forme, par exemple sous une forme animale, ou alors sur celui d'un marchand qu'ils vont croiser. Dans ce côté. Comment dire, pour montrer la présence en jeu du MJ, il y a par exemple aussi les stèles draconiques. Alors, c'est des espèces de bornes kilométriques qui ont la forme d'un petit dragon qui a un bras qui tend le doigt. Et dans l'autre...
C'est la bonne direction.
Voilà, et en fait, le doigt montre la bonne direction. Quand les personnages sont perdus, le MJ peut mettre en place ce genre de truc. Et dans l'autre main de la statue, il y a un trou pour mettre un bâton de marche. Et donc, on peut en récupérer un en cours de route si on voit ce genre de truc.
On peut récupérer quoi ? Un bâton de marche ?
Ouais, voilà. Ça sert de distributeur, si tu veux.
Ah, c'est un distributeur de bâtons de marche, d'accord. Ok, bon.
En fait, c'est un peu le principe du Vélib. Tu vois, tu l'empruntes à un endroit et tu le rends à un autre.
Parce que tous les gars sont équipés d'un bâton de marche, c'est ça, t'as des équipements ou...
Pardon,
tout le monde a un bâton de marche ou pas?
Sur l'illustration, ils en ont un chacun.
Oui, ah. Voilà, sûrement, voilà. Enfin, j'ai pas fait très attention aux détails.
C'est Coquille Saint-Jacques quand ils vont à Compostelle, en plus.
Ouais, c'est possible. Putain, on dirait les illustrations de Rémi sans famille.
C'est Rémi. Ouais, c'est en plus, il y a un chien.
Ouais, il y a le chien et tout.
Moi,
c'est horrible, en fait. C'est joyeux ou c'est pas joyeux?
J'ai un peu envie de leur dire, attention, ton chien va mourir.
Putain, le spoil, moi, j'avais pas vu à ce moment-là.
Il a trois chiens.
Ouais, mais surtout, je crois qu'ils meurent tous.
Si t'es passé quand il reste qu'un chien.
Et même le singe, il passe à la fin.
Non, mais c'est triste.
Je crois qu'il meurt de froid.
Arrête, c'est un jeu joyeux. avec des petits jeunes gens qui sourient sur l'image.
Mais pendant qu'on en parle, d'ailleurs, le chien sur la couverture, ça représente le personnage du MJ. C'est l'animal envoyé par l'homme dragon.
D'accord.
Ah oui, puis on voit une petite stèle draconique aussi. C'est pas un bâton de marche, il dit, c'est une branche, hein, je vais pas dire. Mais... c'est pas très bien usiné.
Voilà,
tout ça.
Bon, alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu-là.
Alors,
T'insistes hein, pour savoir ce qu'on fait dans le jeu.
Bah, c'est-à-dire que moi, quand on me présente un jeu, j'aime bien savoir ce qu'on y fait.
Eh bien, on voyage et on a des aventures.
D'accord.
Et on peut être alpagué par les gens d'un village pour éliminer un monstre ou pour aider des gens à trouver des herbes médicinales ou. Ou juste
ou leur faire des massages, d'accord,
okay. Faire des massages. Ou ouais. Quand tu voyages, au bout d'un moment, il faut que tu chasses, donc tu peux aller chercher des animaux et tout ça.
Mmh, d'accord. Il y a un chasseur, donc ça va être ça.
Ouais, j'imagine.
Chasse des lapins.
Après, le jeu présente un résumé de tout ce que le joueur a à savoir, qu'il soit PJ ou MJ. S'il est PJ, donc il a le résumé de la création de perso, comment est-ce qu'on utilise les règles, des trucs comme ça, donc un truc super détaillé. Et sur la page de droite, il y a une petite planche de BD qui montre une des actions typiques d'une partie, avec le fait de se battre, le fait de monter un campement, fait de se balader.
Il y a quoi, il y a des caracs, il y a des compétences
Oui, bien d'accord. Sûr, attends.
Ah oh, merde, on va trop vite.
Voilà. Là il y a une planche de BD qui montre ce que ça peut donner un petit peu en partie. Et pareil pour le MJ, tu le vois, tu vois l'homme dragon qui réfléchit à ce qui va se passer, qui note des trucs, qui note des monstres, machin. Et tu le vois intervenir en partie, c'est-à-dire il est en haut d'un rocher et en fait il regarde les PJ qui sont loin, qui sont en train de gravir un col ou un truc comme ça. Ensuite, après il y a une page de vocabulaire rôliste. Et un dessin de chacun des polydriques, parce qu'apparemment au Japon ils jouent qu'avec des D6.
D'accord.
Semble-t-il.
C'est très bien.
Après il y a quatre grandes parties qui sont appelées les saisons. Donc d'ailleurs ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a des onglets sur le bouquin qui permettent de les repérer, d'aller dans la section. Comme tu pourras le remarquer, ton animatrice Yannick te montre avec le doigt de manière.
Oui, voilà. Un magnifique modèle pour main. Oui, comme vous ne pouvez pas le voir.
Alors, ces parties sont donc printemps, été, automne, hiver. Dans le printemps, il y a tout ce qui concerne le PJ, c'est-à-dire la création du perso, avec sa classe, son type, son rôle, ses niveaux, équipement, etc., etc., et les sorts. Pour la création du perso, tu choisis à la fois la classe de ton personnage, c'est-à-dire ce qu'il va faire. Il peut être guérisseur, chasseur, noble, fermier, artisan. Ça, je l'ai déjà dit, guérisseur, marchand, ménestrel, noble.
C'est fini cet assistanat. Il triche, il ne connaît pas ses classes.
Non, je ne connais pas.
Yannick les lui montre au fur et à mesure.
En plus de ça, tu as également un rôle qui est, par exemple, tu es cartographe, chef, chroniqueur ou intendant. Le chef, c'est le personnage qui va trancher les conflits, qui va prendre les décisions, qui va être le leader.
Ouais, mais ça, c'est un peu
il y a le cartographe qui donc fait les dessins et tout ça. Donc ça fait ce rôle fait partie du jeu quoi. Il est inscrit dans les règles.
Ah ouais. Et le chroniqueur, celui qui fait les comptes rendus de partie.
Oui, exactement.
Oh, putain, je l'aime lui. je l'aime.
Et il y a l'intendant, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est campement, etc. C'est celui qui fait les jets de dés pour savoir combien tu as dépensé de nourriture ou si tu t'es bien reposé pendant la nuit. C'est lui qui fait tout ça. Après, tu peux choisir le type de perso que tu veux faire. C'est-à-dire, c'est la façon dont il va résoudre les conflits. C'est-à-dire, soit en attaquant, soit par une technique quelconque. Ça peut être ou du marchandage, ou je sais pas, parler avec les gens, tout ça. Ou la magie, qui donne des bonus spécifiques. Le personnage est décomposé en 4 attributs qui sont, je sais plus lesquels, mais il y en a 2 physiques et 2 mentaux. Et quand tu fais un jet de dé, tu prends un dé du nombre de faces correspondant au score d'attributs. Donc il y a 4, 6, 8, 10, voilà tout ça. Et on utilise 2 de ces attributs qui changent en fonction de la situation, etc. Et on lance les dés, et il faut que ça dépasse un seuil, ou alors c'est un jet en opposition, et voilà, voilà. Il y a des jets, il y a des fumbles quand on fait un double 1, et il y a des critiques qui sont à la fois quand on fait un double 6, ou quand on fait le score maximum sur chacun des dés que tu lances. Par exemple, si tu lances 2d8, ce qui peut arriver.
Donc plus t'as des gros dés, moins tu fais de critiques.
Non, parce que non, justement, parce que le si au début tu n'as que des 6, au maximum tu feras des doubles 6. Mm-hmm. Alors qu'après tu peux faire des doubles 6 ou le maximum du dé.
Ah.
Donc t'as 8, tu critiques sur double 6 ou double 8.
Voilà, exactement.
Mm. Ouais, mais c'est, il a raison quand même. Parce que genre si t'as des dés de 12, tu critiques sur double 6 et double 12.
Oui.
Donc t'as moins de chances de critiquer sur un dé de 12 que sur un dé de 8.
Ah, c'est pas faux.
Faut pas essayer de nous la faire à l'envers, attention.
J'avais pas du tout pensé
à ça. Les années d'expérience font toujours la différence.
Tu as raison. Où est-ce que j'en étais ? Oui, donc voilà, on peut choisir trois types de répartition, soit un truc équilibré, soit un mec un peu plus spécialisé, soit quelqu'un qui aura des beaucoup plus grands déséquilibres dans son perso, c'est-à-dire genre il aura 2d4 et 2d8, ou 2d6, enfin, ou d6, ou d4, d6, d8, d6.
Sur 2d4, tu fais des critiques, enfin, sur 2x4, sur des d4, tu fais des critiques aussi ?
Que sur 4.
Ouais, que sur 4.
Puisque le 6 n'existe pas.
Ouais, ouais, mais tu fais les...
Mais t'as 25% de chance.
Ouais. C'est bien aussi.
Ouais, t'as aussi 25% de chance.
Ouais, ça c'était un petit problème qui avait dans CV de joueur, un truc comme ça, je crois.
Et ouais. Pareil pour les fumbles aussi. Alors, ensuite, il y a tout ce qui concerne les niveaux, donc l'évolution, tout ça, des niveaux qui font gagner des points de vie, des points d'énergie qui servent à lancer la magie. Il y a également de l'encombrement. Au fil des niveaux, on peut aussi gagner des points d'attributs ou avoir une nouvelle classe, ce qui permet de changer un peu le personnage, en sachant que les classes en question que j'ai citées tout à l'heure, elles ont des techniques qui sont propres à leur classe, genre faire le soin pour un herboriste, avoir la compétence de dressage pour
le fermier,
voilà. Mmh. Il y a aussi donc tout l'équipement set qui représente plein de tableaux en fait dans lequel on trouve les services qu'il y a dans les différentes villes qu'on traverse, les armes, les vêtements, c'est-à-dire qu'on peut avoir des vêtements un peu spéciaux qui vont donner des bonus dans certaines circonstances. Il y a également tous les animaux qu'on peut avoir comme animaux de bas, par exemple, et tout ce qui est herbe de soin. Aussi tous les sorts, c'est-à-dire il y a deux catégories de sorts, des instants et des rituels qui sont plus longs à lancer. Et c'est tout pour cette première partie. Ensuite, dans la seconde, en fait, c'est l'essentiel des règles utiles. Donc faire un test en opposition, les niveaux de difficulté, les critiques et les points de maladresse. Ah oui, d'ailleurs, quand on fait, je crois que c'est quand on fait un fumble. Tous les personnages gagnent un point de maladresse, c'est-à-dire que l'échec de l'un du groupe, fait progresser la compréhension de cet échec. Mm-hmm. Et
tout le monde tire des conclusions positives.
Voilà, et ces points de maladresse peuvent être ensuite dépensés pour. Pour quelque chose, mais j'ai oublié quoi.
Comme des XP ou.
Oui, enfin, c'est dans des situations spéciales, je me souviens plus. Donc, il y a également tout ce qui est les conditions, c'est-à-dire si le perso est blessé, malade, etc., surexcité.
Ouais, ce que t'appelais des états tout à l'heure.
Ouais.
C'est le terme technique ou c'est.
Oui, c'est les conditions, ouais, c'est conditions. Ça. Ouais. Donc la gestion du voyage, c'est-à-dire les modificateurs en fonction des types de paysages et des types de climat. La description de tous les magnifiques dragons, Ils sont vraiment super beaux. En fait, ils font penser, comme tu disais, Yannick, à des de très gros Pokémon.
C'est pas moi qui disais ça.
C'est pas quelqu'un c'est pas qui plus, m'a hein. dit ça, je crois. Ah ben c'est mon pote Ben tout à l'heure qui a dit ça. C'est vrai que ça fait penser un peu à des très gros Pokémon, mais beaucoup mieux dessinés quand même. Et les dessins sont vraiment très très beaux.
Du dessin japonais, non ?
Bah c'est beau quoi.
Non, je sais pas. Ouais, moi j'aime bien.
Moi je trouve ça vraiment très très chouette. Ouais, il y a ensuite toute une partie consacrée au combat. Et c'est marrant parce qu'il y a une espèce de planche de combat justement. Avec
une Pokéball dans le bouquin.
Qui est ouais, en forme d'œuf.
Ouais, c'est l'œuf de bataille.
Voilà, c'est l'œuf de bataille. Avec des situations où on peut poser. En fait, c'est comme dans un combat en RPG, dans un jeu vidéo sur console. Et, tu as le front avant, le front arrière, tu poses tes persos dessus et voilà. Ensuite, la partie qui s'appelle Autumn, c'est pour le MJ. Donc, c'est pour comment créer son homme dragon, comment le choisir. On peut choisir son type, c'est-à-dire il y a des dragons, il y a des dragons verts, dragons noirs, dragons rouges et dragons je sais plus quoi. Et en fait, chacun d'eux ont des. En fait, chacun d'eux donne le type d'aventure qu'on va faire. Par exemple, si tu prends un dragon rouge, tu auras beaucoup plus de combats. Si tu prends un dragon vert, c'est le dragon du débutant en fait. Tu commences avec un dragon vert qui a certains types de pouvoirs qui sont des trucs plutôt gentils ou dédiés au voyage et tout ça. Et tu peux aller jusqu'au dragon noir où là tu auras des aventures où il y aura des trahisons et surtout, c'est la fois où le MJ peut tuer un PNJ.
Le dragon noir avec la dague, là. Ouais,
ouais, exactement.
Tremble, grand merde.
C'est l'un des objets qu'il peut avoir lui permet de tuer un PNJ.
Ouais, en fait, chaque homme dragon permet au MJ, finalement, par le biais des artefacts, enfin de ce qu'il porte, d'agir soit pour les embêter, donc ça, c'est les trois premiers artefacts.
Soit pour les aider
avec les souffles, c'est ça.
Ouais.
Donc par exemple le souffle du dragon noir massacre, il redonne des points de vie au PJ à partir du moment où ils ont frappé une créature qui est grande. Mais à quelle fréquence, comment ça s'utilise ça?
Je sais pas. je dois avouer, j'ai pas trouvé. C'est que j'y ai pas pensé et j'ai pas regardé spécifiquement. Ah, c'est écrit.
Oui, c'est pas grave. Ok.
C'était la page d'après.
Oui.
Ensuite, donc la création de cet homme dragon, comme je disais, son type, ses pouvoirs, l'affiche du perso du MJ, ce qui est quand même cool. Et c'est tout pour cette partie. Après, il y a tout ce qui concerne. Ah oui, c'est pas tout pour cette partie. Il y a tout ce qui est scénario. Le scénario d'intro, la structure des scénarios. Qui est un truc super formaliste qui fait un peu peur au début. J'ai trouvé. Il y a vraiment des encadrés avec des questions auxquelles il faut répondre. Voilà, oui, la visio structure, effectivement, qui est, tout est détaillé dans le bouquin assez clairement. Et en fait, ça donne des scénarios qui sont en bloc, où on a donc des grandes parties avec. Dans lesquels peuvent s'insérer des séries d'événements qui sont eux aussi découpés en blocs et qu'on peut prendre à n'importe quel moment. Il y a pour chacune de ces parties, il y a tout ce qui concerne l'environnement du voyage sont décrits, donc le climat et le paysage qui sont concernés. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et dans la partie hiver,
alors en fait là sur la partie scénario, moi ce que je comprends c'est qu'un scénario global,
oui,
il est décrit par une fiche d'objectif, c'est-à-dire que ce qui va déterminer ce que vont faire les joueurs à un instant donné, donc c'est vraiment,
ouais,
des fiches avec des blocs effectivement,
oui,
t'as
tout
son
fait.
Nom,
ouais,
t'as l'apparence, c'est-à-dire comment est-ce que on va décrire l'objectif, les capacités spéciales, c'est-à-dire ce qui va se passer lors de la résolution de cet objectif, et la tanière c'est l'endroit où se trouve l'objectif en fait. c'est ça ? Mm. Tu confirmes ? Et après, tu as une structure de scénario qui va déterminer l'ensemble des scènes qui vont être jouées dans l'ordre et comment est-ce qu'on va faire la transition entre ces différentes scènes. Donc là, il y a par exemple l'introduction, acte 1, transition, acte 2, mmh. etc.
Et à chaque fois, à chaque événement, il y a décrit l'effet ouais. et.
Exactement, en fait, chaque acte et ou chaque transition.
Il est commenté, je crois.
Ouais, ou est commenté avec les règles qui vont être utilisées, les jets à faire mmh. et les choses, enfin les événements qui vont prendre place là. Par exemple, voilà, l'acte 1, il passe du bon temps, il visite la ville, il réserve des chambres, font des courses, etc. Donc ça, c'est. Voilà ce qu'on va décrire, ce que le maître de jeu va décrire. Lorsqu'il va vouloir faire jouer la partie 1. Donc c'est plus une fiche d'aide à l'improvisation en fait, plutôt qu'un scénario
d'écrit. Et d'ailleurs, dans tout le bouquin, il n'y a aucune description de lieu ou de ville ou de trucs comme ça. Tout est laissé à. Enfin, il y a toutes les bases qui servent à décrire, mais sans qu'il y ait de lieu qui soit prédéfini.
Ok.
Alors, donc la dernière partie, la partie hiver, comprend tous les monstres qu'on peut affronter, toutes les créatures, plein de PNJ, des PNJ typiques. Dans les monstres, il y a les fameux gobelins chats.
Des gobelins chats ?
D'accord. Oui.
Je connaissais gobelins araignées. Mais...
qui sont faites des créatures humanoïdes, mais chats, quoi. Mm-hmm. Et qui font gob-miaou.
Peux-tu me parler du très grand Géo-coucou ? quel est le cri du Géo-coucou, s'il te plaît ?
Je ne sais pas.
Ah bah voilà. Bon, le très grand Géo-coucou produit une graisse spéciale qui, une fois préparée, sert d'antidouleur. Très important pour nos amis qui
magnifique là. Et donc les chats gobelins ont l'une de leurs caractéristiques, c'est de porter toutes leurs possessions dans un pot de fleurs qu'ils portent sur la tête.
D'accord. Donc si on le renverse, il se passe quoi? Il est très énervé
Je sais pas, sûrement si on vient lui casser son pot de fleurs. Oui. Voilà. Ça fait partie des multiples créatures que l'on peut rencontrer et qui sont un peu... j'ai l'impression que c'est un peu comme leurs orques, mais en plus mignon. Il y a un encart, je ne sais plus où, qui précise effectivement de toujours privilégier le fait de, que les créatures adverses soient ou assommées...
oui, on ne les tue pas, quoi, on va éviter.
Ou en fuite, ou elles disent « Oh là là, vraiment, on a été trop vilains, on va arrêter ».
Ouais, genre on va pas tuer un pauvre parapluie carnivore.
Voilà, par exemple.
Ouais. C'est pas vraiment sa faute. Oui, ça existe, hein. Il y a un parapluie carnivore.
Il a faim, le pauvre.
C'est la crise, merde.
C'est la crise, mec.
Faut que je
Alors,
mange.
Maintenant, un petit peu ce que je pense de tout ça. Alors, en fait, je trouve que le livre propose très exactement ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire de proposer un jeu pour débutants qui soit orienté pour les MJ en quelque sorte.
En fait, ils forment les deux, ils forment les joueurs et les MJ.
Ils forment les deux sans distinction de difficultés particulières. Et qui propose au MJ en plus de s'inclure lui-même vachement dans la partie avec le personnage de l'homme dragon et de tous les persos que tu peux faire intervenir. Et par le biais notamment des stèles dont je parlais tout à l'heure, je trouvais ça vachement amusant de dire voilà, tiens, un outil du méta-jeu qui te sert à réorienter tes personnages.
Alors, c'est déjà en 1986. Tu sais ce que je veux dire ou pas ?
Non, pas spécialement. Non.
Comment on appelle ça ? La série télé Donjons et Dragons ?
Où tu te souviens ? Le sourire du dragon.
Le sourire du dragon, par contre,
ah
tu as raison.
Le petit vieux.
Et avec le petit vieux qui était la représentation du MJ qui reguidait les joueurs dans les bonnes directions à chaque fois.
Oui.
Donc c'est sur le même principe en fait.
Ouais, mais il te filait pas un bâton de marche.
Non, mais il te filait des objets magiques, si tu te souviens.
Et puis là, c'est des trucs qui sont en pierre, donc...
Non, mais on s'en fout. L'idée, c'est, voilà, c'est que t'as une représentation méta-jeu.
Bon, au lieu de dire, peu importe que t'ailles à gauche ou à droite, le bon chemin, c'est celui-là, là, tu leur mets carrément le dragon avec le doigt qui pointe, quoi.
Ouais.
Prends celle-là.
Oui, donc c'est vraiment pour les débutants.
De toute façon, j'ai pas écrit ce qu'il y a sur l'autre chemin.
Et en plus, je...
Mais qu'est-ce qui se passe si tu prends le mauvais chemin, si tu suis pas la direction du dragon ? Les dragons, ils disent putain, ils sont cons.
Peut-être que les statues se mettent à pleurer dans leurs mains.
Ah oui, le facepalm de dragon.
Oui, voilà, le facepalm de dragon. Ouais, le en plus le jeu à la fois pour débutants mais surtout pour débutants très jeunes quoi.
D'accord.
Oui, pour initier nos
je pense que genre pour si tu as
pour mes enfants.
Si tu as un enfant de 11 ans.
Ouais, voilà.
Exemple,
Ouais, enfin moi je les ai initiés avec d'autres jeux mais
avec Bloodlust Metal,
mais non, tu sais, j'en parle ouais, quasiment
avec Adventure oui, Party. Oui. Hein.
Adventure Party et avant
parce que du coup j'ai acheté hein, mais bon, ouais. j'ai pas trouvé de choix.
Ah bah c'est, non mais c'est bien dans une partie. Mais même avec un autre jeu que j'avais initié dessus avec un système de cartes et de dessins qui est dessus.
Ouais, okay.
Donc que j'avais déjà mis sur le forum de Cassius Snow. Et ça me semblait moins compliqué que là. Mais là ce qu'il y a comme intérêt, ce que tu as l'air de dire, c'est que ça forme le MJ en même temps.
Oui.
Moi ce que j'ai vu sur la création de scénario et d'événements, c'est que c'est plutôt pas mal précisé, enfin pas mal écrit.
Didactique.
Très didactique.
Assez didactique. Et puis, genre, ils se prennent pas la tête. C'est fait ci, écrivez ça à ce moment-là.
Plein d'encadrés partout qui disent très exactement comment procéder.
Voilà. Donc.
T'es pas lâché dans la nature.
T'es pas lâché dans l'aventure et tu dois définir, lors de la création d'un acte ou d'un événement, les outcomes, c'est-à-dire ce qui va se passer en cas de réussite ou en cas d'échec, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Donc, ça guide le MJ vraiment débutant. Donc, est-ce que c'est pas plus un jeu de et ce serait bien le premier d'ailleurs, un jeu de formation de MJ plutôt que de joueur.
Ouais, ouais. Ouais. C'est à ça que j'ai pensé et c'est ce qu'il propose, qui est clairement dit dans l'avant-propos du bouquin. Et donc évidemment, ça peut pas plaire forcément à tout le monde de faire un jeu qui est clairement conçu pour un monde super, super piste,
gentil,
super
ouais.
Mignon, kawaii, tout ça. C'est super chou et tout, et donc il faut pas que tu veuilles incarner un.
Il ouais, y a quand même des combattants, il y a quand même
des mondes de la mort et tout.
Ouais, mais non, pas d'anti-paladin.
Non, pas d'anti-paladin qui boivent du sang de vierge le matin au réveil, mais.
Il galère pour en retrouver.
Il galère en Tessie pour en retrouver.
Bah non, tu vas pas me dire qu'ils font des choses là-dedans. tout le monde est vierge.
Non, mais on peut. Non, mais il y a quand même de l'aventure et c'est pas. C'est, je veux dire, c'est pas mou. Mais c'est plus
oui,
on va dire manichéen zombies. Ou en tout cas plus gentil que la moyenne.
D'accord. Enfin moi j'ai l'impression qu'ils se mettent sur la gueule quand même. Hein, parce
ouais.
Il y a des
oui.
gobelins cafards volants.
Non mais tu les assommes. tu les assommes ou tu les remets dans le droit chemin.
Un gobelin cafard radioactif.
Quoi ?
C'était dans Fukushima.
Radioactif.
Ouais, c'est ce qu'il y a marqué. Ils sont plus intelligents que leurs congénères. Ça m'étonnerait, s'ils étaient aussi intelligents, ils seraient pas
radioactifs. Chérie, on va aménager à côté de cette centrale. Je pense que c'est une très bonne idée. Tu n'es pas le plus intelligent des gobelins cafards.
Non, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même d'abattons.
En plus, c'est
tu
pas
vois,
cher.
T'as quasiment toute la femme qui est sur.
Puis, en plus, je trouve, le jeu super intéressant pour découvrir la façon dont les Japonais créent du jeu de rôle, en fait.
Oui.
Le fait justement que ce soit super super structuré, la façon dont est découpé le jeu, tout ça et ça semble-t-il c'est quand même quelque chose qui est plutôt fréquent dans les jeux japonais et je trouve ça au moins intéressant à voir, voilà. Bref, un jeu vraiment super beau, très chouette, et tout ça. Ah oui, quelques infos supplémentaires sur le jeu. Donc, il est sorti presque un an, jour pour jour, après sa date normale de parution. Enfin,
sa date prévue.
Il a qu'un an de retard, c'est ça.
Voilà,
d'accord, ok.
Il a un an de retard. Les bonus ne sont pas prêts pour l'instant, mais ils devraient arriver d'ici début novembre.
Qu'est-ce que tu appelles les bonus ?
C'était du Kickstarter, d'Indiegogo.
Les scénarios supplémentaires, tout ça, pour ceux qui l'ont becké. Enfin, pour ceux qui l'ont ululé.
Ah, d'accord, donc c'est un truc ululé, Kickstarter et compagnie ?
Ouais, exactement.
Ah,
okay. Sauf qu'en plus, il est distribué en boutique par Millennium. Voilà.
Et donc, depuis quand ? On peut le trouver.
Et depuis cette semaine. En fait.
Oui, j'allais dire depuis quelques jours.
Moi, je l'ai reçu lundi et je pense qu'il y a pas mal d'ululeurs qui ont dû le recevoir en tout début.
Moi, j'en ai vu un paquet dans ma timeline Facebook. Là. Ouais, ah oui. Ouais, j'ai reçu mon Ryutama. Je me dis, de quoi il parle? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ryu Tamagotchi.
Alors, Ryu Tamagotchi.
Non, mais au moins 4-5.
C'est l'extension.
Mais c'est vrai qu'il y a, aussi un côté ouais, Pokémon Tamagotchi, tout ça. Le fait d'avoir plein d'animaux de compagnie.
D'accord.
Voilà, c'est un bel ouvrage, ça, ça a l'air bien. C'est 30 euros, ce qui du coup me paraît.
Il est assez gros le bouquin.
Ouais, 190.
Ouais, 204.
Allez, allez, ma bonne dame, on va dire 202. Là. Ouais. je vous rajoute un gobelin cafard.
Radioactif.
Avec un gros œuf de combat et tout. Non, c'est beau, c'est agréable. C'est vraiment le truc qu'on en a. Je pense qu'on ça donne envie de se poser pour le bouquinier. Quoi.
Deux, trois trucs supplémentaires. Donc, le bouquin, le saut de la foi, en fait. C'est pour ceux qui ont. Qui ont ululé la version ultime qui permettait de recevoir un bouquin en gros sur le game design et tout ça. C'est pas du tout comment c'est de rédiger. En revanche, ils peuvent l'échanger contre un autre jeu de l'éditeur. Donc, par exemple, Guts qui sortira. Ça t'intéresse plus, ça. Hein.
Guts.
Hein, je le sens, hein.
Ouais, je sais pas. ce que j'en entends me plaît pas.
Oui,
mal,
oui,
ouais.
On voit que tu te crispes.
Voilà. Non, mais je me disais simplement le bouquin qui donne des idées de game design. Est-ce que c'est pas juste le blog de Jérôme Larré?
Ouais aussi oui.
Oui. Là, tu prends le blog, tu prends les articles et t'en fais un livre. Bah, c'est passionnant à chaque fois donc. Ouais.
Tu pourrais vendre en sous-main tous ces articles sur eBay.
Moi? Non mais non, je vais me faire attraper.
Attraper. Bon et eh bien et voilà j'ai terminé sur ce bouquin.
Merci.
Voilà.
Suite.
Et puis
suite,
voilà. Et maintenant, alors voyons voir. Je regarde combien de temps il nous reste pour. Ah, il nous reste très exactement 25 secondes. Donc tout de suite, nous allons
tout
faire
suite
une pause.
D'urgence.
Tout de suite la pause et on revient dans pas longtemps.
Mais
ciao.
Ils sauront pas qu'on est parti et qu'on a mis 3 heures.